France Bleu RCFM. France Bleu.
Yeah.
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Ce soir, je vous emmène au parc Galéa. Alors évidemment, cela pourrait être une balade anodine, une visite, peut-être entendre des bribes de conférences ou participer à des ateliers. Eh bien, si vous le voulez bien, nous irons plus loin, puisque nous parlerons science également et passion. Comment ce parc est-il né? À l'initiative de qui? Dans quels esprits ont germé ces idées? Et puis surtout, aujourd'hui, comment ce parc fonctionne-t-il? Avec qui? Et vous, qui chaque dimanche prenez votre voiture, votre famille sous le bras et vous rendez sur place, qui êtes-vous et pourquoi vous y allez? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir jusqu'à 18h dans Toc Toc. Salut Fabrice Fenouillère.
Bon, j'allais dire Fabrice de Galéa, parce que finalement, c'est ce nom-là qu'on me donne aujourd'hui.
Mais c'est très élégant, Fabrice.
J'adore,
de Galéa.
C'est notable.
Fabrice de Galéa.
Ouais.
Alors, voilà, ces questions qu'on se pose depuis un moment, et auxquelles on ne répond jamais, puisque maintenant, le parc, ça roule. On sait qu'il y a environ entre 800 et plus de 1000 personnes qui viennent chaque dimanche aux conférences. Allez, ça, c'est un fait. Mais au commencement, c'était quoi l'idée de Galéa?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé sur les évidences, nous aussi, hein, à l'interne. En fait, je crois qu'il faut remonter il y a une dizaine d'années. Et le parc Galéa, c'est tout simplement une rencontre. Aujourd'hui, ce sont des rencontres avec des scientifiques, avec ce public qui vient extrêmement nombreux. On en est vraiment ravis, ça nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Mais oui, la rencontre entre moi qui étais à l'époque guide conférencier, qui créait des outils culturels pour parler du patrimoine insulaire, et Paul et Pierre-François Semidei, père et fils, des personnes extrêmement discrètes, mais pour autant qui ont investi leur temps et un peu plus évidemment dans ce projet, qui est finalement l'idée de transmettre la connaissance comme une sorte de grande forêt.
Donc en fait, ce sont des entrepreneurs.
Oui.
Vous intervenez dans leur village de vacances en tant que guide conférencier. Et vous vous rencontrez et tout de suite vous sentez qu'ils ont envie de quelque chose de particulier.
Oui, ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent dans le tourisme d'une manière générale. Et à l'époque, c'est vrai, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, oui, que je faisais des conférences sur le patrimoine de la Corse. Et comme je viens du monde des villages de vacances pour mes premiers emplois saisonniers de jeunes, eh bien voilà, c'est un des endroits que j'aimais bien. En tout cas, ce type de clientèle du tourisme social. Et voilà, je faisais des conférences sur la Corse. Et puis, au bout de 3 ans, on a parlé davantage entre nous, entre eux qui me recevaient toujours extrêmement bien. Le public avait réceptif, et puis l'envie ensemble ensuite, tranquillement, de monter ce projet sur un terrain de 9 hectares où il n'y avait pas grand-chose, et tout de suite l'idée de se dire, allez, qu'est-ce qu'on peut inventer qui ne ressemble pas à d'autres, mais c'était pas par l'envie d'être différent, c'était surtout qui nous ressemblerait à nous, eux, Paul Semidei et son fils, et puis moi, de l'autre côté, en essayant de faire ce que je pouvais et amener ce que je pouvais
pas
aussi.
Pas pour on a être créé... différent, mais un projet quand même nouveau, une offre quand même différente, qu'on ne trouve pas.
Ouais.
Sinon, quel était l'intérêt? Vous aviez quand même envie de quelque chose de...
On voulait de la nature et de la culture.
Ouais.
On voulait surtout transmettre les savoirs, on voulait parler de science, on voulait partir très très loin, mais en n'oubliant pas nos racines insulaires dans les discours que nous aurions. Et ça, c'est vraiment Paul Semidei qui a voulu très rapidement partir vers de l'universel, et moi je l'ai bien sûr suivi avec beaucoup d'engouement, et tout ça a donné finalement 9 hectares de jardins exotiques et méditerranéens, 2000 mètres carrés de muséographie, centré sur la Corse pour une partie, et vraiment ouverte sur le monde.
Pourquoi jardins exotiques?
Alors là, c'est aussi des rencontres, on a eu l'occasion de rencontrer des collectionneurs, notamment de cactés, il y a plusieurs années. Moi, j'avais déjà une vraie passion pour les plantes depuis très longtemps, depuis tout petit, et pour le coup, là, on rencontrait des masses d'individus piquants venant de tous les endroits exotiques du monde,
ça,
qui n'attendaient qu'à être plantés chez nous.
Ça, c'est facile. Fascinant, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les Corses, extrêmement voyageurs, ramenaient comme ça des plantes exotiques, collectionnaient des plantes. Et donc c'est lié à notre histoire, ça également.
Oui, puis s'il y en a bien une qui symbolise tout ça, pour rebondir sur l'idée d'insularité, sur la plante exotique, c'est le figuier de Barbarie, par exemple. Alors, si vous avez, par exemple, un trou dans un dîner un soir, que vous organisez chez vous, vous m'invitez. Vous savez, le dîner où il y a quelqu'un qui parle de ses passions, c'est le dîner de quoi? C'est un film qui a été fait sur ça.
Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
Bon, je veux bien le faire, en tout cas, pour ce repas, je vous parlerai du figuier de Barbarie. Voilà, c'est un exemple de cacté qu'on connaît très bien chez nous, qui est évidemment sur la liste des plantes invasives aujourd'hui et depuis longtemps, mais qui est une pure merveille quand on sait l'exploiter. Voilà des choses qu'on veut raconter. Comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment dans les plantes ou dans la science? Mais enfin, là, c'est des conférenciers qui nous rejoignent pour en parler. Voilà, en retournant le globe, en retournant nos idées, en engageant le débat. Voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui, Galet a la philosophie générale, une sorte de projet économique qui prend le temps de faire les choses, qui peut-être un jour donnera ses fruits.
Enfin, vous ne me répondez pas.
Sur
le figuier de Barbarie, comment il arrive?
Ben vous l'avez dit, il arrive par une envie d'exotisme à un moment donné dans nos jardins. On est au 19e siècle, essentiellement, on a envie à la fois de faire des clôtures qui seraient très pratiques. On connaît les moyens de défense du figuier de Barbarie. Et puis derrière, il se diffuse extrêmement bien tout seul, avec notamment les oiseaux qui font le reste. Et il se plaît tellement bien sur nos terres, évidemment, qu'aujourd'hui il pullule. Mais c'est un trésor incroyable. Les raquettes se mangent comme des haricots. C'est formidable, mais vraiment, si vous avez envie d'inviter des gens et leur faire une cuisine originale, vous cuisinez des figuiers de Barbarie pour les raquettes les plus jeunes qui n'ont pas d'épines. Je ne parle pas de l'huile qui est aujourd'hui la plus chère au monde, vous le savez.
Ça, hein, je le sais grâce à vous.
1000 euros le litre. Oui. Enfin, ce sont les pépins de figuier de Barbarie. Il faut quand même en presser 30 kilos. mais c'est un litre d'huile pour 1000 euros. Je suis sûr, ça ne me fait pas forcément que des amis autour de moi, mais je suis sûr, si cette émission est enregistrée,
nous la garderons.
Non, mais je suis sûr que dans une vingtaine d'années, ce type de culture, qui aujourd'hui est plutôt à bannir, puisqu'elle est sur la liste des invasives, comme elle ne demande pas d'eau, comme notre terre lui convient parfaitement, comme cette plante a été classée par l'ONU comme plante du futur pour l'humanité, le figuier de Barbarie, en Corse, nous aurons des cultures très naturellement comme en Sicile.
Trouvez-moi un truc avec les asphodèles également. François Thomas est avec nous.
C'est pas vrai.
Bonjour François Thomas.
Bonsoir Marie.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Merci d'être avec nous. C'est très gentil. On va pas vous garder longtemps parce que vous avez affaire. Vous avez connu, François, le parc au tout début, à sa création, n'est-ce pas? Et puis vous êtes intervenu plusieurs fois et puis vous êtes un proche de cette aventure-là.
Alors moi, je connais Fabrice depuis longtemps. Le parc, effectivement, depuis sa création. Et je me rappelle bien qu'au début, vous savez, le problème là-dedans, c'est que vous aviez l'association de trois personnes, Fabrice et puis les Sémidés, père et fils. Ces trois cerveaux en perpétuelle ébullition, donc ça ne pouvait que donner des choses bien. Et je me rappelle au tout début, il y a quelques années, quand on discutait de savoir, c'était à l'occasion, je crois, de l'élaboration du Paduc, et où il y avait 9 hectares de la propriété des Sémidés qui étaient gelés, notamment autour de la maison familiale, et l'idée d'en faire quelque chose, mais quoi, donc ça réfléchit, mais comme c'est des gens qui réfléchissent rapidement, efficacement, ils ont rapidement trouvé quelque chose à en faire et quelque chose d'exceptionnel, et puis comme c'est des gens qui sont éternels, insatisfaits, il faut tout le temps qu'ils progressent, donc on est tout le temps à inventer, à progresser, c'est formidable, et puis on voit ce que c'est devenu, quelque chose d'exceptionnel.
Justement, quel regard vous portez sur cette évolution du parc Galéa?
C'est-à-dire, c'est
vous attendiez à
bon
cela
sens, hein, parce des fois, on peut évoluer dans le mauvais.
Oui.
Et donc, c'est parti, je me souviens, donc pour la partie bâtisse familiale, c'était histoire de faire quelques salles d'exposition, mais sur quoi? Ensuite, l'extérieur, qu'en faire? Donc, on avait imaginé toutes sortes de choses, même pourquoi pas un Corsica Lanta ou un espèce de parcours du combattant du patrimoine.
Heureusement qu'on ne t'a pas suivi, François, finalement, j'y pense maintenant.
C'était il y a très longtemps. Mais ensuite a commencé à germer l'idée de faire un espèce d'écrin qui représente tout ce qui touche à la Corse, hein, en long, en large, en travers, mais au sein de la Méditerranée, pour expliquer beaucoup de choses, y compris l'histoire, le patrimoine, la culture. Et puis avec cette ouverture sur le monde, je me souviens, ça avait commencé par des expositions temporaires, et puis comme l'a toujours dit Fabrice, au gré des rencontres, on s'enrichit mutuellement, et puis ça a évolué jusqu'à en arriver à... Malheureusement, moi, le dimanche, je ne peux pas être présent, mais j'ai regardé sur les journaux, c'est exceptionnel, et puis j'ai vu à la télé le nombre de personnes qu'il y avait à la dernière conférence.
Mais c'est un gros jour de travail pour vous, le dimanche, peut-être?
Voilà, moi je suis très pris et je ne peux pas assister à ces conférences, mais j'y suis moralement. Et puis Fabrice me donne souvent l'occasion aussi de rencontrer tous ces gens-là.
Et oui, d'intervenir.
Différemment et directement.
Fabrice.
Donc c'est vrai que c'est super.
Moi je t'écoute avec...
Façon, Quand vous avez l'association de trois personnes hors du commun, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse si ce n'est que quelque chose d'exceptionnel?
Oui, et puis d'abord, j'accepte pas ce que tu dis, tu t'en doutes. Hein. Ah bon, François, mais je te remercie pour ces bons mots et qui me touchent, et j'imagine qu'ils toucheront ceux concernés autour de moi. Moi, je voudrais vraiment dire aussi inversement qu'on a François Thomas, et j'en profite là à l'antenne, on va dire. On a là aussi un incroyable défenseur du patrimoine, notamment naturel, quoi. Moi, je crois pas connaître un guide de randonnée qui soit aussi passionné, mais c'est pas suffisant. J'ai envie de dire aussi passionnant, aussi connaisseur de son
flore,
de sa terre. Mais il y a une manière de dire les choses et de les vivre. Lui, il les vit. Et il les vit de manière incroyable. Et donc, justement, il le disait, il a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos conférenciers parce que moi, quand j'ai des demandes quand on a quelques jours avec ces scientifiques, toujours très intéressants et qu'ils ont une demande de connaître cette nature-là, je sollicite souvent François pour lui demander s'il peut nous recevoir du côté du nez. Je sais pas si tu te rappelles, François, on peut pas le dire, mais comme personne n'écoute, tu te rappelles de ce politologue, on dira pas le nom, qui a fini en caleçon dans un pot sous du côté du nez, je crois, qui le soir était en cravate à la télévision sur France 3, hein, il y avait un truc comme
super,
ça. C'était génial.
Je l'ai suivi le soir même, il était rentré sur Paris, et je me régale parce que je le vois souvent à la télé, il est d'ailleurs intervenu récemment.
Oui, non, on dit pas son nom, mais c'était génial.
Le problème des gilets jaunes, mais on taira son nom.
C'est rigolo, voilà, des rencontres improbables. C'est-à-dire, tu nous avais amené dans un endroit formidable, et on avait sauté dans les vasques, et dans la foulée, il s'était rasé dans une voiture du côté d'un pare-brise, il a sauté dans l'avion, il était en cravate à côté de France 3 le soir. C'était vraiment rigolo, on a vécu des bons moments.
Et lorsque vous intervenez, François, c'est sur la flore?
Moi, j'interviens parce que déjà par amitié pour Fabrice, j'interviens parce que je suis curieux de tout, donc j'aime ce genre de rencontre. Mais après, moi, je parle un peu de tout ce qui touche la flore, bien sûr, mais même le patrimoine, l'environnement humain, enfin tout ce qu'on peut parler de notre île, parce que notre île nous prend, nous passionne, donc. On parle de tout au travers de mon métier, mais aussi de cette curiosité qu'on a perpétuelle sur notre région.
Bon, il a un contact avec le public, François Thomas, il faut le dire, qui est exceptionnel.
Ouais, et puis le jeune public.
Moi, j'ai eu
aussi
la chance de l'avoir comme guide. Mmh. Et franchement, vous passez un moment absolument délicieux où vous vous enrichissez et où vous riez beaucoup.
Oui, oui.
Il ne montre pas cette facette-là ce soir.
Non.
Mais c'est bien dommage.
Vous êtes pas mal aussi au niveau de l'humour au premier, deuxième, troisième et plus aussi affinité.
Bon.
Mais je vais. Faites attention parce que quand j'étais plus jeune, sur d'autres horizons, le Figuier de Barbarie, nous l'appelions la femme du légionnaire. Hein.
Oui, mais tu me l'as déjà dit, mais je pensais pas que tu l'aurais évoqué par pudeur et puis par politesse.
En tout cas, je suis très content de vous avoir au bout de fil. C'est toujours un grand, grand plaisir.
Merci.
Allez, on vous embrasse fort, François Thomas.
Je vous embrasse très fort et bonne continuation. Et attention à ce qui n'explose pas. Hein. Son cerveau, je vous dis, il est
hyperactif.
Bon bisous.
Ciao.
Merci beaucoup. Au revoir,
merci, François.
Donc, évidemment, François Thomas.
Il est insupportable, ce garçon. Je vous le dis, s'il a raccroché, il a raccroché, hein.
Il n'a pas raccroché.
Mince.
Si vous avez l'occasion. Il est toujours là.
Je vous laisse, je vous embrasse.
Allez, ciao.
C'est pas mal une randonnée avec François Thomas. Hein, si vous en avez l'occasion, contactez-le parce que vous allez passer un moment vraiment, vraiment délicieux au niveau du savoir, de la connaissance, mais aussi, je le disais, de l'humour et puis des coins surprenants, des petites des petites pépites, des petites perles.
Pas de pépettes, non, pas beaucoup.
Pas de pépettes. Vous savez ce qu'il m'a dit quand j'ai eu au téléphone pour préparer l'émission?
Dites.
Je suis certainement la bonne personne, car j'ai vu Fabrice Fenouillère ensemencer le parc Galéa.
Bon.
On a tellement ri. Fécondé, il y a dit après.
Si vous voulez, j'ai peur, je ne comprenais pas le premier mot. D'accord, fécondé, je préfère. Il n'est jamais loin quand il se passe des trucs comme ça.
Bon, allez, dans un instant, nous continuons à parler du parc Galéa qui a déjà démarré son cycle de conférences. Hein, et les gens étaient au rendez-vous.
Oui.
Bon,
dès la première, on
autant
était vraiment
que d'habitude.
Un peu plus même, et c'était vraiment une
c'est-à-dire, dites-le quelques chiffres.
Je ne sais pas si les chiffres veulent tout dire et rien dire. Non, on ne compte pas en plus. Et vraiment, hein, on ne compte pas.
C'était Repenser le monde avec Étienne Klein.
Oui, on a commencé cette année. On devait avoir Edgar Morin qui, au dernier moment, a eu un problème de santé, mais on s'en doutait un tout petit peu. Il a voulu faire l'effort jusqu'au bout. 98 ans, c'était complexe. Ses trois complices sont venus, dont Étienne Klein, effectivement. On a repensé le monde avec eux. Oui, il y avait un peu plus de 1000 personnes pour venir écouter ces trois penseurs. Et c'était absolument dément. Mais ce qui fait surtout plaisir, c'est pas le nombre, c'est une sorte d'envie qu'on ressent. du public insulaire de venir écouter, se faire un avis aussi, hein, débattre avec des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont plutôt brillants toujours. On a la chance que ces gens-là nous répondent. Et c'est vrai que cette première était extrêmement intéressante. Et la seconde, c'était la bioéthique. Ça, c'est avant-hier, il y a 2-3 jours, là, c'était dimanche. C'était aussi absolument génial en termes de débat d'idées avec Jacques Testard, le père du premier bébé éprouvette.
Alors, évidemment, ça va se poursuivre jusqu'au 27 octobre, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a les conférences, mais pas seulement, parce que c'est un espace, évidemment, qui est sollicité, mais vous aviez ce désir, dès le départ, de pouvoir octroyer cet espace, le temps d'une rencontre, le temps d'une conférence, à d'autres également.
Pour le public, vous dites, à d'autres envies sur place. Bah oui, et ça aussi, on est content que la mayonnaise ait l'air d'avoir pris. C'est que oui, quand on vient à Galet, bien, toute l'équipe autour de moi ressent, et nous les premiers d'ailleurs, même quand on se rend, on va dire, au travail, bien qu'on n'en ait pas l'impression, ressent une sorte de bulle où on est ailleurs. Voilà, quand on franchit les portes du parc, et je le dis avec beaucoup de simplicité, hein, je pense qu'on n'y est pour rien, c'est la vigne qui est en face, c'est la mer en fond d'écran, on est ailleurs, c'est Cactus qui nous accueille, des enfants qui vont vers les animateurs en jeu de piste, qui descendent en atelier, qui font une chasse au trésor, qui touchent la matière comme on l'a touchée il y a plusieurs milliers d'années, et qui refont des gestes anciens avec notre équipe pédagogique, des parents qui visitent les musées, d'autres qui font plutôt la balade dans les jardins, ces centaines de personnes en conférence. Voilà, il se passe une sorte de comédie musicale, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on a l'air d'oublier tous ces soucis pour venir apprendre ensemble, vivre un moment, je crois, également social ou sociétal. On échange beaucoup, des rencontres se font, des gens se repèrent, mais dans le bon sens du terme, entre curieux, entre avides de connaissances partagées. Et voilà, il se passe un truc le temps d'un après-midi où on est en Corse. On est à Taglio, mais on est aussi, je crois, un peu ailleurs, dans sa tête et physiquement. Et je crois que c'est une recette qu'on n'a pas forcément chercher, mais qui a l'air de prendre. Et le mot qui revient le plus sur le livre d'or depuis 7 ans, qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est le mot apaisant.
Eh oui. Des espaces zen qui ont été conçus, le parcours pieds nus, les cactus, les espèces méditerranéennes. Mais qui est le jardinier qui travaille au quotidien?
Alors, le jardinier, et c'est vrai qu'on n'en a qu'un en plus, mais c'est donc pour 9 hectares, hein, ouais. Il s'appelle Rabat, ça me fait beaucoup plaisir de prononcer au minimum son prénom ici, il ne voudrait pas prendre le micro, il serait trop timide, et comme l'ensemble de l'équipe que vous avez sollicité, et c'est vrai que bon, c'est moi qui parle, mais il y a toute cette équipe derrière, dont ce jardinier. Voilà quelqu'un qui, c'est la première fois, moi, on a créé le parc avec lui, les mains dans la terre, on va dire, tous ensemble.
Il est là depuis le début.
Oui, il est là depuis le début. Voilà quelqu'un qui a le sens de la terre. Quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui n'a pas forcément fait des études de jardinier, d'horticulture, mais qui est capable, sur n'importe quelle plante qu'on lui ramènerait, d'un cactus qu'il n'a jamais vu, il y a 400 espèces, vous imaginez bien qu'on peut tomber sur un péruvien, un bolivien qu'on ne connaît pas, voilà, et bien, il sent la plante, il voit ce dont elle a besoin, il ressent la terre qu'il lui faut, le moment où il doit s'en occuper, et comme on a essayé de faire des jardins, on ne va pas dire du tout écologiques, mais qui ne demandent pas d'eau, qui sont plutôt dans l'économie, on n'utilise aucun pesticide, on fait vraiment tout à la tzap, hein, à la pioche ensemble, et toute l'équipe s'y met quand il faut vraiment mettre un coup de propre, notamment sur les chemins. Mais voilà, il sent les choses, et c'est plutôt un endroit où l'on ressent pour faire, plutôt qu'un endroit où on applique une technique. Et ça, c'est valable à tous les échelons des gens qui travaillent avec nous.
Donc il fallait un artisan passionné au quotidien.
Et voilà. à tous les postes, de l'accueil à l'animation pédagogique.
Alors les autres, qui sont-ils? On n'en parle jamais.
Oui, ben voilà. Alors, je suis sûr que si je prononce un prénom, et c'est bien que vous m'en donniez l'opportunité, je prononce le prénom de Yannick, et pour le coup, c'est une femme, et qui est à l'accueil. Je crois que beaucoup d'auditeurs qui connaîtraient notre structure, là, ont un grand sourire en coin, hein, ou alors sur leur visage, parce que voilà Yannick, qui est notre responsable d'accueil, depuis le départ aussi, qui a fait et vu grandir le parc. Eh bien, à mon sens, on est l'identité. Ça veut dire que son sourire, le fait qu'elle se rappelle de tous les prénoms, l'humanité naturelle et sincère qui se dégage de cette personne fait qu'elle est l'emblème du parc dans le bon sens du terme. C'est pas une casquette et un logo. C'est Madame Galéa, d'ailleurs, quand elle va faire ses courses. C'est pas ma femme. Moi, je suis présenté comme Fabrice de Galéa. Elle, aujourd'hui, c'est Yannick, Madame Galéa. Et ça, c'est important parce que voilà quelqu'un qui, a priori, est rentré de plein pied dans ce mouvement-là, l'a fait grandir parce que le parc a grandi avec elle. Et le sourire tous les dimanches, notamment quand on ouvre le dimanche en ce moment, des gens qu'elle accueille.
On parlera du reste de l'équipe tout à l'heure. Vous n'êtes pas bien nombreux hein, pour ces 9 hectares.
Non, 6 personnes, mais c'est bien, c'est déjà beaucoup.
Et pour tout ce qui s'y passe entre eux, on l'a dit, les musées, mais aussi les conférences. Et puis cette nouveauté qui m'intrigue beaucoup, dont nous allons parler avec vous, c'est la fameuse construction, l'invention, un chantier école, l'invention d'un village. Ça s'appelle l'archéocyte. On en parlera avec vous, Fabrice, mais dans un instant, un autre intervenant dans Toc Toc. Les Vampire Weekend sur RCFM à 17h30. Étienne Klein est avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous-même et à Fabrice.
Bonjour Étienne.
Bonjour.
Étienne, vous animez la conversation scientifique sur France Culture. Vous êtes déjà venu au parc Galet. Vous êtes une sorte, allez, on va le dire, de parrain du parc. Et vous êtes parti il n'y a pas très longtemps. Et vous reviendrez, j'imagine, peut-être l'année prochaine, puisque vous êtes un grand habitué. Et Fabrice, tenez à vous avoir ce soir dans cette émission. Et je vous remercie de venir nous faire un petit coucou. Quel regard vous portez sur ce lieu, sur le parc Galéa?
Écoutez, j'y suis allé 3 fois, si ma mémoire est bonne, et la première fois, c'était avec une sorte d'émerveillement qui est lié au cadre, qui est lié à la qualité de l'accueil, et puis aussi au fait que les conférences ont lieu le dimanche après-midi à 15h, ce qui est un horaire très inhabituel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de conférences à 15h le dimanche dans d'autres villes de France. Et puis, il y a une espèce de... je ne sais pas comment l'appeler, de ferveur du public qui vient en famille et qui est tout à fait original, que je n'observe pas ailleurs quand je donne des conférences. Et puis cet étonnement, il s'est renouvelé presque à l'identique à chaque fois, donc c'est la preuve que je ne suis pas encore habitué à ce lieu.
Il va dans le sens de votre émission, la conversation scientifique, c'est-à-dire vulgariser, bon allez, le terme a tellement été employé, mais en tout cas, donner à tous l'occasion de s'étonner, de se questionner, de s'émerveiller. C'est la mission de ces conférences au Parc Galéa, et c'est également la mission de votre émission sur France Culture.
Oui, c'est un point commun. Disons qu'on parle beaucoup de science dans nos sociétés, de technologie, d'application, de crainte, d'espoir, etc. Mais la science, c'est surtout des idées. Je pense que, aussi bien au Parc Galéa que dans l'émission dont vous parlez, la France Culture, on essaie de montrer quelles sont les idées de la science, qui sont des idées pas du tout intuitives. Donc, pour les exprimer, il faut un certain temps. Et ce temps est donné, je pense, dans l'émission, parce qu'elle dure 1 heure, c'est assez rare à la radio. J'ai une conversation. Et au Parc Galéa, parce qu'on a le temps d'exposer et ensuite de répondre à des questions du public. Et donc, ça permet une forme de transmission qui échappe à l'accélération de l'information qu'on connaît par ailleurs.
Et puis laisser le libre arbitre également aux auditeurs ou aux spectateurs qui sont là pour cette conférence, la possibilité, c'est ce que je disais en préambule, de se questionner, de s'interroger.
Oui, puis de faire part de son propre questionnement en public et d'avoir des réponses plus ou moins complètes des scientifiques qui viennent parler. Je pense que, si vous voulez, pour qu'on transmette bien les idées de la science, il ne faut pas simplement écrire des livres, se retrancher dans des tours d'ivoire depuis lesquels on émettrait des messages, mais il faut aller questionner ou entendre les questions du public en allant au plus près dans une atmosphère bienveillante. C'est ça qui compte, la bienveillance. Bienveillance mutuelle.
Les sujets ont évolué, ont même changé en ce qui concerne le questionnement du public. C'est ce que me disait Fabrice Fenouillère en préparant l'émission par rapport à il y a 7 ans, à la création du parc. C'est la même chose pour l'émission ?
Bah, l'émission, elle se base sur des livres. Hein. Donc moi, je regarde quels sont les livres parlant de science qu'on peut trouver dans les librairies. Donc c'est toujours des livres récents. Et j'observe que les questions de science dure, en effet, ont tendance à passer au deuxième plan. Elles sont dépassées désormais par des questions plus liées à la biologie, à l'évolution des technologies, qui jouent sur la conception même du vivant. Et on sent qu'il y a là une source de questionnement, de peur parfois, qui fait que ça vient plutôt avant les questions de physique fondamentale sur les trous noirs ou le boson de Higgs.
Vous reviendrez
Alors moi, je viens si je suis invité. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'invitation formelle.
Tu es parti il y a 5 jours, Étienne.
Je réserve ma réponse.
Tu es parti il y a 5 jours. Il y a quelque chose qui a été très intéressant, une idée forte hein, qu'il a soulevée. Il a également eu la possibilité de l'exprimer sur vos ondes. Et moi, j'ai bien retenu ça lors de sa dernière intervention. Il était intervenu sur Einstein, il était intervenu sur le temps, cette question
c'est
du temps.
C'est votre genre de science.
Ouais, et là, il y a quelques jours, là, le dimanche où il était avec nous, il disait, et ça m'a bien marqué, je crois que ça a marqué les gens aussi, c'est une des idées qu'il développe en ce moment, qu'il y a quelques années de son temps, quand il était enfant, et moi ça me concerne avec quelques années d'écart aussi, on se projetait sur l'an 2000. Ça voulait dire quelque chose ou pas, ça allait se passer ou pas, mais on imaginait cet an 2000, et il y avait quelque chose, soit une attente, soit peut-être une angoisse, c'était plutôt d'ailleurs souvent rigolo ce qu'on racontait, des choses très technologiques. Aujourd'hui, plus personne ne se projette sur 2050. Voilà ce que je pense, hein, sans trahir tes propos Étienne, ce que tu soutiens, et là ça peut poser un problème sociétal peut-être.
Oui, l'avenir est laissé en jachère intellectuelle, de sorte qu'il est envahi par toutes sortes d'angoisse, et c'est pas très sympathique pour les jeunes qui nous écoutent de savoir que on ne pense pas au futur qu'on leur réserve.
Là, je suis meurtrie. Parce que, non, je vais vous expliquer, dans mon immense naïveté, je n'y avais jamais pensé. Et alors là, vous m'avez tué tous les deux, parce que je ne vais pas arrêter d'y penser. Mais c'est vrai qu'on ne se projette plus comme on le faisait jadis pour l'an 2000 et sur l'évolution de la technologie, parce qu'on aurait presque envie de la freiner un petit peu, parce qu'on sent que ça va mal pour nous. C'est vrai que c'est pas terrible pour la jeunesse qui nous écoute. En tous les cas, moi j'invite les gens à venir à ces conférences. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas forcément des habitués aux conférences qu'on retrouve au Parc Galéa.
Non, alors il y a des gens qui viennent évidemment parce qu'ils sont intéressés par la thématique précise du jour. Et là, c'est, on va dire, 50% du public finalement qui se renouvelle et qui vient pour un thème qui le passionnerait particulièrement. Et puis l'autre partie, oui, fait quand même, fait partie de ces habitués qui, sur les 30 conférences par an, feront par exemple une quinzaine qu'ils cochent sur leur agenda.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Étienne Klein.
Merci, c'était un plaisir, comme toujours, quand je suis connecté à la Corse.
Il y a un truc de fou, je garde Étienne 30 secondes, je vous raconte un truc, Marie, il pourra se boucher les oreilles. Étienne Klein est quand même le seul scientifique qu'on ait reçu, qui était logé du côté de la citadelle à Bastia. Il y avait une tempête, comme rarement, on était en mars, je crois, il y a 2 ans, une tempête, mais avec pluie et vent. Il me dit, Fabrice, ce mont qu'il y a là-haut avec une antenne, on était au cœur de la citadelle de Bastia, abrité sous un porche. Hein. Comment je fais si je veux partir en courant et l'atteindre là maintenant ? Et c'est le seul scientifique, donc le seul invité, qui, en pleine tempête, a filé tout droit, ou en tout cas a essayé de filer tout droit, parce que je ne sais pas s'il est arrivé au bout, il faudra qu'il me le dise un jour, pour grimper vers un mont qui l'appelait. Et c'est un garçon incroyable, qui est en connexion parfaite avec la nature, qui est un sportif de haut niveau.
Non mais ça veut dire que l'enfant qu'il a été n'est pas très loin.
C'est un incroyable mec. Ouais.
Hein, Étienne, ça c'est vraiment un truc de l'enfance, ça.
C'est dans les pentes que se passe la vraie vie. Ah.
Merci beaucoup Étienne d'avoir été présent.
Merci, à bientôt.
Au revoir
tout le monde.
Merci beaucoup. Vous l'avez entendu ? C'est dans les pente.
Ouais, moi je préfère les descentes. Il est complètement taré de sport. Vous savez qu'il fait les 100 km régulièrement et il est incroyable. Il a visé le Pino. Il m'a dit je m'en fous par où on passe. Moi je pars de la citadelle et je trace tout droit pour monter là-haut. Il est parti à travers champs, il a sauté des barricades. À mon avis, il s'est fait tirer dessus une ou deux fois, il l'a pas dit. Mais avec un vent et une tempête incroyable, il est complètement incroyable ce mec-là.
Mais c'est ça.
Et c'est un scientifique de très haut niveau. C'est à chaque fois qu'il intervient, c'est un bonheur total.
L'esprit des grands explorateurs ou des grands scientifiques, c'est y aller quoi. Savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au bout. Les conférences à suivre, la prochaine qui arrive très vite, ce sera ce dimanche, puisque c'est toujours chaque dimanche à 15h, le changement climatique. Hervé Le Treut, on le retrouve ici sur France Inter et puis on en parle ensemble, Fabrice Fenouillère.
En fait, toute la chaleur qui se stocke au niveau de la planète, c'est effectivement dans les océans, dans les premières centaines de mètres d'océan, on a ce réservoir de chaleur qui est dû à ce que les gaz à effet de serre empêche de s'échapper vers l'espace. Donc on a une capture en fait de chaleur qui se fait dans les océans et qui donne à ce changement une dimension de long terme. Les océans mettent du temps à se réchauffer, on mettra encore plus à se refroidir. Et donc on est face à des situations qui sont très largement irréversibles, d'autant plus que les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Quand on parle du CO2, moitié du CO2 est mis injecté dans l'atmosphère à un moment donné, est encore là. En tout cas, ses effets sont encore là pour moitié, après 100 ans. Donc c'est une échelle de temps extrêmement longue. Donc on est face à une situation qui est très largement irréversible et qui donne un contexte très fort à tout ce qui peut se produire plus localement.
Alors évidemment, le climat et le changement climatique est un sujet qui normalement devrait intéresser tout le monde. Souvent, on a un peu peur. Alors on se dit, je veux pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais lorsqu'il y a des gens comme Hervé Le Treut qui expliquent tellement bien ce qu'est le climat, quels sont les enjeux, où nous en sommes. Je trouve qu'en plus, il a un discours qui est tout à fait pondéré. Vous n'avez pas la suite de l'interview, mais le journaliste l'interroge en lui demandant est-ce que vraiment c'est le fait des hommes, uniquement des hommes, puisqu'on le sait aujourd'hui. Eh bien, il pondère son discours, il explique, il prend le temps. Et c'est assez formidable.
Oui, il n'est pas angoissant, mais surtout, c'est une chance qu'il ait répondu présent aussi à l'invitation avec Le Treut. Alors là, on est avec un climatologue, on va le dire, de renommée internationale. Ça veut dire que le GIEC, évidemment, l'a convoqué en tant qu'expert, surtout sur les questions, justement, d'évolution du climat et de problèmes d'effet de serre, qui sont ses spécialités. Il a reçu de nombreux prix pour ça. Il est directeur des plus grandes écoles de climatologie en France. Il intervient à la Sorbonne, etc. Donc on a quelqu'un, effectivement, extrêmement humble, déjà qui a aussi envie d'échanger avec le public et qui a ce regard double qui va vraiment nous intéresser dimanche, c'est-à-dire l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui réellement à l'échelle mondiale? Qu'est-ce qui nous attend? Et on verra aussi qu'il a un discours qui nous explique que tout n'est pas joué, que des scénarios peuvent encore se produire et dont on n'a pas forcément la conclusion. Et puis, il redescend aussi, et ça, ce sont des études très précises qu'il a faites, à l'échelle locale, régionale. Donc, on a ici un spécialiste capable de nous parler, avec un regard d'expert, on va dire mondial, sur cette situation planétaire, où on en est, qu'est-ce qui nous attend, avec un pluriel, au bout. Et sans forcément angoisser, culpabiliser le public, il est effectivement extrêmement pondéré, pas forcément rassurant, parce qu'il connaît l'urgence et l'inquiétude qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et derrière, qui va venir sur des solutions, sur un côté pratique, sur le fait qu'il faille prendre conscience qu'on a des risques et puis faire avec. Et trouver aussi, parler d'enjeux, mais nous parler également de solutions qui peuvent vraiment être mises en place. J'aime beaucoup ce scientifique, je suis très content qu'on l'ait. On avait reçu Jean Jouzel, avec qui il a beaucoup travaillé. Là, c'est lui, et donc je pense qu'on va vraiment se régaler dimanche.
À 15h, il ne faut pas oublier que le matin, il se passe quelque chose également.
Oui, et souvent on le fait comme ça, et c'est un petit peu là au hasard des rencontres ou des appels, quand on cale un peu des rendez-vous le matin avec des associations locales, avec des instituts, beaucoup plus en lien avec notre île. Et effectivement, des dimanches comme ça, voit éclore des rendez-vous à 11h avant la grande conférence, on va dire, de 15h. Et là, ce sera autour des oiseaux migrateurs ce dimanche, effectivement, avec le Conservatoire des espaces naturels. On pense à Arnaud Lebré qui l'anime, notamment au niveau de sa pédagogie. Et on sera en train de parler à 11h ce dimanche, des oiseaux qui, en pleine de Prunette et du côté de Tchervionne, migrent. C'est un comptage qui est fait actuellement et ça nous permet également de voir où en est la vie faune, où en est l'ornithologie.
C'est Étienne Rogeau, je crois, qui interviendra. Oui, qui est ornithologue, d'accord. Et je fais un bond, si vous le permettez. permettez, par rapport à la conférence de dimanche sur le changement climatique, si vous le permettez, allons jusqu'au à une autre date. Et cette date, ce sera le 14 avril. Ouais. Entre-temps, il y aura eu Jean-François Clairvoy et Yves Coppens, on en reparlera. Avec la présence de Pablo Servigne. Pablo Servigne, c'est un jeune homme qui a fait des études assez poussées et puis qui est sorti du système universitaire pour écrire des livres. Il a arrêté la recherche et il a fait des conférences, il en fait encore aujourd'hui, notamment sur le collapse. Alors je ne sais pas si les auditeurs savent de quoi il s'agit, ça se traduit par effondrement, hein.
Ouais, ce qui se passe après l'effondrement, la collapsologie. Pablo Servigne, oui, qui est docteur en sciences, hein, de son état, et qui a choisi comme ça de militer, on va dire, par la parole, par la présence en public, par des livres qui sont toujours des best-sellers, en fait, hein, aujourd'hui. Les trois derniers qu'il a écrits sont toujours classés parmi les cinq premiers, on va dire, à la FNAC ou dans d'autres enseignes de vente de bouquins au niveau national. Bah, peut-être que les auditeurs auront en tête Une autre fin du monde est possible, par exemple, ou alors L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et c'est vrai que lui va faire débat, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le côté agitation de neurones, dans le côté confrontation d'idées, parce que oui, il explique avec sa vision des choses qu'aujourd'hui ça va plutôt mal, que l'effondrement va avoir lieu, un effondrement des sociétés, mais de leur économie, des problèmes environnementaux qui sont là, voilà. Et lui, il est déjà en train d'imaginer à ce que ce sera demain. Comment inventer demain aujourd'hui? Comment faire que, pas qu'il soit trop tard, mais comment faire qu'on peut déjà avoir des idées aujourd'hui pour se préparer à quelque chose?
C'est le titre de sa conférence,
pour
inventer demain.
Peur, pour ne pas en avoir peur et pour trouver des solutions dès aujourd'hui. Il est plein d'idées, il est extrêmement suivi. Voilà un garçon qui fait, alors c'est pas du tout le quota qui est intéressant, mais entre 600 et 1 million de vues à chaque fois qu'il s'exprime, par exemple, sur le net, sur ces questions d'une autre fin du monde possible.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans sa démarche, par exemple dans son dernier ouvrage, qu'il a coécrit d'ailleurs, il explique qu'il y a 5 étapes. Il y a la première étape où on n'a pas conscience qu'en effet ça va mal et qu'un effondrement est possible, puis jusqu'à la 5e étape où on peut devenir complètement fou parce qu'on se dit il n'y a pas de solution, ou alors c'est en tout cas le parti, lui, qu'il prend, et bien se réunir, réfléchir ensemble et collaborer.
Exactement.
Qui selon lui semble être la seule solution, et puis surtout se sentir moins seul.
Oui.
Quand on réalise qu'on n'est pas tout seul à comprendre que ça va réellement mal et qu'il faut se retrousser les manches, eh bien ça va mieux, logiquement. Et arrêter de dire qu'on est dans le monde des bisounours lorsqu'on se prend la main et qu'on réfléchit ensemble.
Oui, c'est une parole qu'on apprécie ou qu'on va vouloir contrer, hein, et ça sert bien aussi, hein, le débat d'idées. Mais oui, la coopération, vous l'avez dit, la solidarité, la bonté, l'altruisme, mais en pensant aussi à vivre, à faire ses fins de mois, à essayer de s'en sortir, c'est tout ce qu'il prône, avec cette entraide et des vraies solutions, c'est-à-dire des vraies idées qui peuvent voir le jour et qui voient d'ailleurs déjà le jour. Lui-même d'ailleurs s'applique, hein, ces méthodologies ou cette manière de penser. Il a tout lâché d'ailleurs sur Paris pour vivre du côté des Alpes, dans un endroit reculé. Et alors il applique évidemment ces méthodes, cette manière de penser. Et je crois que ça va être une belle rencontre, à minima une superbe rencontre humaine. Pablo Servigne est quand même un humain extrêmement intéressant, extrêmement humble et puis extrêmement riche de
partage. Puis il est père de famille, hein, il a 2 enfants, c'est un optimiste. C'est pas
s'il a des enfants, il doit l'être.
Mais c'est ça, ben c'est
oui.
Ça.
Et puis ça va être une belle rencontre humaine et au mieux aussi un beau débat d'idées.
Votre année, Fabrice Fenouillère, c'est l'année 2012. Allez. On l'a choisi cette année parce que c'est l'année de la création du parc.
Exactement.
Combien de temps a-t-il fallu pour ouvrir les portes?
Alors on a bossé, je crois, environ 2 ans, pour les Pierre-François Sémédé, les équipes autour de nous, tous ceux qui ont imaginé ce projet avec nous, qui l'ont concrétisé de leurs mains, on a mis les nôtres aussi évidemment, tous, nos idées, voilà, 2 ans environ, on a commencé il y a une dizaine d'années, hein, à penser, on va dire, les plans de masse, à penser aux déambulations, aux différentes thématiques qu'on voudrait développer dans les jardins, dans les musées, le programme d'activités, d'animation, les fusions de sciences, voilà, de savoir qu'on voulait autour de tout ça, 2 ans, puis après le parc a ouvert, et c'est bien en 2012, en mai 2012, qu'on a ouvert nos portes.
Bon, alors évidemment, moi j'ai eu la chance de connaître les débuts, le papyrus, les poteries.
Ouais.
Non, mais c'était
premières émissions, c'était avec vous.
C'était vachement bien. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, vous faisiez appel à des associations qui pouvaient venir animer des moments pour le jeune public, voire même pour les adultes, hein, qu'ils, comme ça, recherchent avec leurs enfants. C'était très sympathique. Aujourd'hui, vous avez pensé les choses. Vous êtes allé un petit peu plus loin, si je puis me permettre, avec l'archéocyte.
Oui, c'est une continuité, vous le dites bien, hein, de ce qu'on a imaginé avec notre équipe, qui nous suit depuis le début. En fait, on a la même équipe depuis le premier jour d'ouverture, hein, aujourd'hui.
Pour l'instant, j'ai eu que deux prénoms, j'en veux d'autres.
Non, mais il y a par exemple Anouk, je pense à Anouk, aux ateliers pédagogiques, je pense à Jean-Michel, par exemple, qui est un garçon qui fait tout ce qui est scénographie, construction chez nous, puis il y en a d'autres. Et voilà, des gens qui sont investis aussi pour créer ce que vous avez effectivement, là, eu la gentillesse de nommer l'archéocide pour le présenter. Voilà, c'est un endroit où on va plus loin que des ateliers désormais, qui ont fait, ou peut-être qui font aussi, le bonheur des enfants galéens depuis longtemps. Je crois qu'il y a 100 000 enfants qui sont passés dans les ateliers de Galéa aujourd'hui.
C'était voilà. Les prémices, hein, ces ateliers, en réalité, de cet archéocide.
Oui, et puis qui plus est, qui sont toujours, c'est-à-dire on fait toujours des galettes préhistoriques, on fait toujours de la poterie, on fait toujours du papyrus et des hiéroglyphes, on travaille le parfum, voilà, il y a une cinquantaine d'ateliers qu'on peut faire avec ses enfants quand on vient au parc, hein, on touche, on fait pour comprendre, voilà, on vit l'histoire ou la science en direct, faire pour comprendre, c'est ce qui nous anime. Et là, l'archéocide, ça a été pensé de manière un peu différente. On s'est dit, tiens, les enfants viennent et se régalent a priori à faire nos ateliers tous les dimanches, ils le font pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ils ont l'air frustrés parce qu'ils en ont fait trois, ils repartent. Comment peut-on faire pour les garder beaucoup plus avec nous, qu'ils laissent véritablement une trace sur le site, qu'ils puissent venir le revoir dans quelques années et qu'on voit bien qu'ils ont mis
leur empreinte ici. Mais dis à leurs enfants, tu vois l'abri à brebis, c'est moi qui l'ai fait, tu vois là, ça, ce toit
exactement.
En bruyère ou que sais-je, c'est moi qui l'ai fait avec mon frère.
C'est plus que sais-je, c'est carrément ça, vous avez cité vraiment les bons exemples. Ce village préhistorique qui est en train de naître au cœur du parc, sur une zone naturelle que nous avons juste en bas, voilà une forêt de chêne-liège où il y a le sentier pieds nus qui contourne cet endroit-là, eh bien au cœur, il y a ce village préhistorique, on se replonge dans une Méditerranée, pour ne pas dire une Corse d'il y a 6000 ans, on a un habitat qui se construit avec nos visiteurs, on a des brebis dans leur enclos qu'on a construit avec eux, on fait le toit en bruyère, on fait du clayonnage, donc avec du noisetier.
Et des scolaires qui viennent ou pas ?
Les scolaires vont nous faire grandir ce village, et on peut y rester toute l'après-midi, parents compris.
Parce qu'il faut que ça avance, quand même.
Il faut faire un village quand même, de nos mains,
le but,
avec les méthodes préhistoriques.
C'est certes un village école, mais il faut qu'il
naisse. Alors des enfants restent, on l'a testé maintenant bien sûr, parce qu'on l'a ouvert cette année depuis deux dimanches, ils restent 3 heures avec nous, ils font des murs en torchis pendant 3 heures, ils appellent les copains. Ils reviennent la fois d'après, les parents les aident aussi. On se régale avec ce chantier école.
Le 7 avril viendra Yves Coppens qui présentera l'Odyssée de l'espèce. Vous vous souvenez du film ? Il était évidemment le conseiller scientifique de ce film. Il a écrit un livre qui est paru en 2018 qui est absolument fascinant sur l'origine des hommes, l'origine de l'homme. Et là, on le retrouve en interview pour vous donner envie de venir le 7 avril au Parc Galéa.
Pour moi, la chose essentielle, c'est la meilleure compréhension de l'évolution. On sait que les êtres vivants se transforment et on sait que l'ARN au départ, est un élément commun à tous les êtres vivants, aux humains comme à la carotte. J'entendais ce matin une jeune femme qui faisait visiter le musée de l'homme à des enfants et elle utilisait le chou-fleur en disant le chou-fleur c'est comme nous, on a le même ADN. Alors évidemment pas au même niveau, mais évidemment ça amusait les petits qui se demandaient pourquoi ils n'avaient pas une tête de chou-fleur.
Ils écouteront Gainsbourg et puis ils auront la réponse bientôt avec l'homme à la tête de chou.
Ils n'avaient pas tort. En quelque sorte. Et ça aussi veut dire quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que les êtres vivants se sont construits sur 4 milliards d'années, arrivent à ce qu'on appelle la diversité biologique considérable d'aujourd'hui et aussi d'hier. Et c'est intéressant de comprendre la manière dont les processus ont fonctionné pour arriver à cela et pour comprendre aussi pourquoi nous, Homo sapiens, ça on ne le dit pas assez, on ne restera pas sapiens, on deviendra forcément autre chose. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup...
Qu'est-ce qu'on pourrait devenir ?
Une espèce sur sapiens ? Une espèce se stabilise ? Oui, sur sapiens. Oui,
est-ce que ça, c'est du transhumanisme ou c'est de l'évolution naturelle ?
Avec l'évolution des technologies et l'évolution de l'aspect culturel de l'homme, ce seront sans doute les deux associés.
Et ben lorsqu'un sur-sapiens rencontre
sapiens,
que se passe-t-il ? Bon, il est passionnant, évidemment, Yves Coppens. Le rendez-vous est pris. Ce sera donc le 7 avril au Parc Galéa. Comme à chaque fois, à l'accoutumée, c'est un dimanche. Et ce sera à 15h avec l'Odyssée de l'espèce. Juste avant, Un homme dans l'espace avec Jean-François Clairvoyant. J'en parlais, inventé demain, c'est Pablo Servigne. Nos intelligences multiples. Joseph Chovanec, on va en parler dans un instant. Il y aura la vie cachée des plantes au cœur de l'enquête. Le pouvoir des mots, vous m'arrêtez avec Barbara Cassin, que tout le monde connaît en Corse. L'attachement, Claude Beata. Étonnant cerveau, ça les gens adorent. Ça fait, en général, ça fait 1500 personnes, ça.
Oui.
Laurent Cohen. L'émigration, François Héran. Quoi de neuf sur Mars, Francis Rocard. Apprendre. Alors ça, vous en entendez beaucoup, beaucoup parler. Sur l'introduction de la neuroscience à l'école. On dirait vraiment que je sais tout, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé avec Fabrice. Une société en mutation était une fois l'Amérique. Spartacus, l'écologie autrement, la mémoire, faut-il avoir peur de manger les aborigènes d'Australie, ça c'est pour moi, ce sera le 29 septembre.
J'ai réservé votre siège.
Oui, j'adore. La physique quantique, l'histoire des religions, les médecines alternatives, les fourmis comme modèle, et pour les auditeurs qui grognent derrière leur poste, en disant, mais enfin, elle n'a pas donné le nom des conférenciers, c'est le plus important, et bien vous allez sur le site du Parc Galéa, ou bien sur les réseaux sociaux, et vous aurez tous les renseignements. Je reviens à la date du 21 avril, qui est une date importante. Joseph Chovanec sera présent. C'est un grand monsieur.
À tous les sens du terme, je crois qu'il fait 1m94.
Qui a une intelligence humaine incroyable. On l'écoute et on en dit un mot après.
Avec plaisir.
Ou vous voulez le présenter d'abord?
Non, puis en plus ça va être un vrai moment d'émotion, on va l'écouter avant, je pense.
Bon, allez. Vous l'écoutez et puis après on en parle.
Le seul autisme lourd que je connais, c'est quand je me gave de chocolat, donc je prends hélas du poids, donc je deviens autiste lourd. Je suis sans doute le seul ancien conseiller ministériel de France à ne jamais être allé chez le coiffeur, à vivre chez ses parents, à ne pas avoir de permis de conduire, et on pourrait aligner une liste assez drôle de choses. C'est une hérésie intellectuelle. À quoi sert l'école fondamentalement? Ça ne sert pas à apprendre quand t'es mort, lui. 14. D'ailleurs, si vous savez qu'il est mort le 3 septembre 1715, je vous propose un dépistage de ceci ou de cela. Normalement, on apprend ça avant le contrôle, on l'oublie juste après. Fondamentalement, l'école doit servir à apprendre, à fonctionner avec toutes sortes d'autres personnes. Si on raisonne en termes d'inclusion, c'est à l'école de s'adapter à l'enfant et pas l'inverse. Pendant très longtemps, la représentation dominante de l'autisme, c'était une vision très misérabiliste. Le, entre guillemets, pardonné, monstre qui bave dans un coin. Hein. Puis on a sorti du chapeau une vision un peu plus flatteuse en apparence, celle du petit génie, mais qui est tout aussi inexacte que la première. Le terme de génie, c'est une caricature. Ça ne reconnaît pas, je dirais, pleinement l'humanité de cette personne. On croit que les enfants adorent la récré et détestent le cours de maths. Mais pour un enfant, tu sais, c'est la récré qui est le pire des moments. Ben, c'est le moment où vous êtes tabassé. Les enfants autistes essayent d'établir des liens avec un peu tout le monde. Simplement, ça ne marche pas. Ce sont les autres qui sont surpris par leur façon de faire. Quand pendant des années et des années, vous avez été exposé à un rejet parfois émaillé de violence physique, eh bien, vous cesserez vos efforts. Une amie autiste a fait une remarque d'une très grande justesse. Quels sont les seuls enfants qui ne se moquent jamais des enfants autistes? Eh bien, ce sont les enfants trisomiques.
Quelques idées fausses démontées par Joseph Chovanec, qui sera... Je prononce mal son nom.
Non, c'est carrément ça.
Ah bon. Oui. Qui sera donc présent le 21 avril. Le titre de sa conférence, Nos intelligences multiples. Alors, évidemment, c'est touchant et c'est émouvant. Ça, c'est évident. Mais surtout, on apprend plein de choses.
Au bonheur d'être différent, on a souhaité avec lui avoir ce sous-titre de cette conférence qui va forcément nous toucher. Mais vous l'avez entendu, Joseph Chovanec, c'est un citoyen du monde. Il a tourné sur la planète entière, il a rencontré des gens. C'est un garçon qui a eu un parcours complètement chaotique, ça n'allait pas trop à l'école, et puis il a fini docteur en philosophie aujourd'hui avec des missions ministérielles autour du handicap, de l'autisme. Il en parle extrêmement bien, alors on l'entend, hein, l'autisme Asperger dont il est, qu'il porte en lui, fait qu'il a cette voix un peu chaotique, mais une profondeur incroyable. Il va nous parler de ses différences, il va nous montrer qu'il n'est peut-être pas différent, justement, et que l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y en a bien sûr plusieurs.
Ce que j'aime dans le bonheur d'être différent ici, c'est le point de vue qui est déplacé
carrément.
Qui, en quelques phrases, m'apprend beaucoup de choses sur moi-même
et sur
autrui.
Le 21 avril, on avait rencontré Daniel Tammet aussi, qui comme lui parle une quinzaine de langues, il parle des langues incroyables aussi. Mais c'était un moment d'humanité profonde, sincère, et où on s'assoit et on se dit mince. Mon regard est complètement décentré, je ressors pas pareil de ce moment-là. Et c'est ce qu'on aime aussi à Galéa.
Le parc Galéa, allez, c'est à Talluy-Zoulatch, l'ai-je dit? Non, parce que vous le savez tous. Musée et jardin, patrimoine de Corse et du bout du monde, avec donc une nouvelle programmation qui a déjà démarré. N'hésitez pas à aller sur le site ou bien sur les réseaux sociaux pour donner vos impressions. Et puis, allez-y, passez le pas, faites-le, allez-y un dimanche. Vous verrez, vous ne ressentirez pas tout à fait pareil, comme l'a dit Fabrice Fenouillère. Merci d'avoir été notre invité.
J'étais ravi, merci beaucoup Marie. C'était un très bon moment.
Et oui, il y a des moments comme ça où il faut savoir se dire au revoir.
Ils sont tellement rares.
Je rappelle que vous retrouvez Fabrice Fenouillère chaque samedi à 17h pour l'émission C'est votre jour de science aux côtés de Christophe Zagal. Et puis le matin.